Walt Disney Imaginary. Cela va faire plus de 2 ans qu'on vous en parle, mais est-ce que vous connaissez réellement l'histoire de sa création ? Retournons tout d'abord dans les années 50. Comme vous le savez, Walt était un grand passionné des trains. Il avait construit son propre chemin de fer miniature dans son jardin. Je vous renvoie d'ailleurs vers notre épisode dédié si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet. Donc, on revient. On est en 1950. Le petit train de Walt est achevé et fait maintenant le tour de sa maison sur un circuit de plus de 800 mètres. La Carrollwood Pacific Railroad est alors née. Walt décide d'en faire profiter le public, et pour ce faire, il crée alors le Walt Disney Miniature Railroad, qui gérera tout ce qui tourne autour de la Carrollwood. Cette compagnie s'occupa de gérer les visites durant 3 ans. Malheureusement, un beau jour, un accident avec un passager obligea la Carrollwood et son train à fermer. Vous demandez peut-être quel est le rapport avec Imagineering ? Un peu de patience, j'y viens. À la fin de l'année 1952, la Walt Disney Miniature Railroad changea de nom. Elle se transforma en Walt Disney Incorporation, Walt Disney Inc. ou alors les initiales WDI. Vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Ce WDI avait pour but principal de produire des émissions TV. Mais ça va très vite changer. Car vous savez ce qui se profile à l'horizon à cette époque. On est autour des années 50. Et donc, en 1953, Walt mise tout sur son dernier projet, la création d'un parc à thème. Walt Disney Inc. sera alors la branche d'ingénierie et de design de la Walt Disney Company. Mais ce n'est pas tout. Walt profita de cette nouvelle société pour faire 2 choses. La première, il céda les droits sur son nom et son image. La seconde, il céda la propriété de 4 attractions de Disneyland. Elles avaient été financées à l'époque par Walt lui-même, et donc il en avait encore la propriété. Il y avait le Disneyland Railroad, le Mark Twain Steamboat, le Viewliner Train of Tomorrow et le Disneyland Monorail. Je vais laisser ce deuxième point de ce côté, et on va se concentrer davantage sur le premier. Je vais essayer de simplifier ce que ça implique. WDI se retrouve donc détenteur de la propriété intellectuelle liée au nom Walt Disney et à son image. Donc, Walt Disney Inc. récupérait une redevance à chaque fois que le nom et l'image de Walt étaient utilisés pour une production. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la compagnie, vous doutez bien que ce move allait pas rapporter que 3,50$. Hein. Par exemple, juste sur Mary Poppins, ce type de mouvement lui a rapporté plus d'$1 million. Mais il y avait tout de même un problème avec tout ça. Cette action, aussi intelligente soit-elle, pose question d'un point de vue éthique, et surtout vis-à-vis de son frère Roy Disney. D'ailleurs, il n'a pas du tout apprécié, car même si la société mère porte le nom de Walt, lui aussi est impliqué depuis le début. Il reprochait à Walt de détourner une des plus grandes parties de revenus de Walt Disney Productions au profit de sa famille à lui, donc de la famille de Walt. Roy s'est donc naturellement opposé à la création de cette société, bien qu'il ne puisse pas y faire grand-chose. Néanmoins, il a obtenu le fait de changer le nom de la société qui était proche de Walt Disney Productions. Walt Disney Inc. devient alors Wed Enterprises au début de l'année 1953. Wed, W-E-D, pour les initiales du nom complet, Walter Elias Disney. Très peu de temps après cela, en avril 53, quelques mois après, Wed Enterprises est divisé en 2 compagnies indépendantes distinctes pour régler aussi ce problème. D'un côté, Whitlow Enterprises, et de l'autre, Wed Enterprises. Whitlow reprenait toute la partie sur le droit du nom, la propriété des attractions et servait aussi de boîte de production, en produisant une partie des studios. Whitlow, R-E-T-L-A-W, est l'anagramme de Walter. Encore une fois, Walt a voulu jouer avec son nom pour créer sa nouvelle entreprise. Il faut savoir que cette histoire a donc été très mal vécue par Roy. Walt et son frère sont allés jusqu'à s'éviter durant de nombreuses années. Et donc, l'autre moitié de cette société, qui a gardé le nom initial, reprend la partie qui nous intéresse, la branche créative et le design des parcs. À partir de ce moment-là, tout s'enchaîne. La création du plus grand parc à thème de l'époque, Disneyland, l'exposition universelle de New York avec 4 attractions et bien d'autres projets. Le 3 janvier 1965, la Walt Disney Productions rachète Wed Enterprises, qui était toujours une société indépendante. Et c'est en 1986 que Wed Enterprises changea une dernière fois pour devenir Walt Disney Imagineering. Imagineering, Imagination, Engineering, les ingénieurs de l'imagination. Et la suite de cette histoire, je crois que vous la connaissez. We'll be right back.
with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.
A dream is alive.